Pourquoi, ben pas seulement toi à ce moment-là, mais pourquoi t'as fondé Parachute?
Parce que ça répondait, je pense, à un besoin. C'est plus facile.
Mais besoin de qui? Du milieu, de toi?
Besoin du milieu que j'interprétais, forcément. Davantage informé, je pense, de l'art contemporain, de façon locale et internationale. J'ai toujours vu les deux paliers comme allant de pair, l'un avec l'autre. Ça correspondait, je pense, aussi à un besoin de développer des méthodes d'approche critiques plus précises, peut-être que ce qui était publié au Québec à ce moment-là, soit dans les journaux ou dans les autres revues. On en était beaucoup, je pense encore, à l'époque, à une sorte de critique impressionniste ou journalistique, c'est-à-dire de type compte-rendu, là, à part quelques peut-être quelques on pourrait donner probablement quelques exemples, évidemment, de textes d'auteurs qui ont essayé de sortir de ça. Je pense que
Lesquels tu
ce que
penses?
tu essayais de faire, par exemple, à la presse, était une forme de critique plus interventionniste. Tu essayais d'amener beaucoup la critique au niveau d'un débat sur la culture, par exemple. Alors déjà, il y avait là une sorte d'approche un peu structuraliste, un peu sociologique aussi, par certaines façons. Mais tout ça, c'était à un niveau très intuitif, je pense. Je pense pas, même dans les universités à l'époque, qu'on abordait les choses de cette manière-là. On enseignait encore, malgré les prétentions de l'UQAM, essayait, je pense, de se définir davantage, étant donné que c'était une nouvelle université. On enseignait beaucoup dans les deux départements d'histoire de l'art et à l'UQAM, l'histoire de l'art de façon assez traditionnelle, même si on essayait d'intégrer l'art contemporain ou bien d'inventer une nouvelle histoire, une histoire locale autour de la branche patrimoine du département, en tout cas. Ce qui fait que, au niveau de la critique, c'était vraiment l'état de la critique était très embryonnaire à l'époque.
Et
Alors, Parachute avait pour ambition, si tu veux, d'essayer d'orienter, de resserrer, de présenter des méthodes d'approche nouvelles, des perspectives nouvelles, tout ça. Mais aussi, le problème, c'était de publier en tant que critique, là je parle d'un niveau plus personnel, dans des revues comme Vie des arts et Arts Canada, des revues existantes, des textes qui pouvaient correspondre à des nouvelles normes, si tu veux. Les textes étaient traités la plupart du temps dans ces revues-là, coupés,
trafiqué presque.
oui, réécrits pour satisfaire les exigences rédactionnel de la revue pour uniformiser le style de la revue, si tu veux. Tu n'avais pas vraiment le droit à un style personnel. Alors qu'une des premières choses, je pense, à être avancée par Parachute, ça a été justement d'être un lieu où on pouvait publier des textes de la longueur qu'on voulait, de la longueur qu'on avait besoin, réellement pour faire le tour d'une question. Et puis aussi, il n'y avait pas de style rédactionnel propre à la revue. À part qu'il y avait, on essayait quand même de publier des articles lisibles, clairs, et malgré peut-être la complexité théorique, souvent écrit de façon compréhensible.
Respectant la langue ou quoi?
Oui, c'est ça. Alors, parce qu'au Québec, étant on était beaucoup influencé par l'écriture française, par certaines écritures françaises autour de l'écriture, ce qui a fait qu'il y a beaucoup de textes que j'appellerais très littéraires qui sortaient encore à l'époque et qui travaillaient la matière du langage elle-même, la matière de l'écriture elle-même. Et qui était souvent carrément illisible. Bon, alors, on a essayé, nous, de s'écarter un peu de cette tendance-là pour adopter un langage plus pragmatique, si tu veux, un peu se rapprochant de l'anglais d'une certaine façon, la façon dont l'anglais peut, tu sais, on peut moins jouer sur les mots en anglais, moins. Alors, bon.
7 ans après maintenant, est-ce que ça a été fait, ça?
Est-ce que ça a été fait? Bon, si on reprend les éléments un à un, explorer des méthodes d'approche diverses, oui, je pense que ça a été... ça se fait, toujours. Publier des textes, disons, plus approfondi, où l'auteur n'est pas censuré, si tu veux, par la rédaction, en tout cas, par la manière de Canada ou de Vieillard. Oui, ça fait encore partie de nos politiques. Je pense que les choses sont certainement allées en s'améliorant dans le cadre de ces objectifs-là. Je pense que dans le PHU, on peut dire maintenant qu'il existe un lieu. La différence entre le moment où la revue a été fondée et aujourd'hui, c'est que maintenant, effectivement, il existe un lieu où faire de la critique d'art de ce type-là, au Québec ou même au Canada. Je pense pas que.
Vanguard
ne publie pas. Des textes
d'auteurs.
Non, vraiment. Alors, il y a des choses. Donc, on a mis beaucoup d'emphase sur les textes de fond, disons, et au début, et on le fait toujours. Et ça ne s'est pas modifié tellement. Au début, on a mis beaucoup d'emphase sur le fait qu'on publiait ou qu'on voulait publier des interviews d'artistes ou des notes d'artistes, des écrits d'artistes. Et on s'est vite rendu compte que les écrits, parce que c'est une façon d'être en contact direct, non médiatisé avec le travail des artistes, évitant cette espèce de bourbier dans lequel on tombe avec la critique impressionniste où l'auteur s'interpose terriblement avec ses sentiments et tout ça, tu sais, face à l'œuvre. Alors, puis ça, en fait, c'était pas une idée qui venait de nous vraiment, parce qu'aux États-Unis, dans les années 60, ça s'est fait beaucoup, que les revues publiées, en premier, ont publié beaucoup de textes, il y a beaucoup en russe, en petite médecine. Alors, on devait avoir vaguement, tu sais, dans notre inconscient, cette notion historique. Ça a probablement créé le désir chez nous de susciter ce genre de participation, ce genre de collaboration à la revue. Mais on s'est vite rendu compte que ça ne marchait pas, que les artistes ici n'écrivent pas écrivent peu. Et que, bon, ce n'est pas une chose vraiment qui surgit spontanément, tu sais. Ou même à la demande, ça écrit pas beaucoup, je dirais. Alors, de fait, aux États-Unis, ce phénomène-là s'est produit quand les artistes ont commencé à avoir des maîtrises, tu sais, et qui ont dû produire des thèses et tout, tu sais. Peut-être que ça s'est produit aussi à un moment donné où il y a eu davantage peut-être de confrontation entre la littérature et l'art visuel, entre le langage, c'est l'époque de l'art conceptuel. Alors, en tout cas, ici, c'était pas la même
Donc, un
situation.
rêve plein seul coup, quoi.
Oui, mais à part qu'on a continué, on a fait des interviews, là. Tant qu'on a pu. Maintenant, on continue toujours à publier des interviews de façon moins régulière, peut-être. C'est un peu dû, je pense, au fait que l'information qu'on allait chercher grâce à ces interviews-là est une notion qui est peut-être un peu moins importante aujourd'hui, un peu moins primordiale. Étant donné qu'il y en a tellement d'informations tellement plus qu'à l'époque, qui circulent, tu sais. Parce qu'au début des années 70, moi, j'avais pas l'impression que les gens ici lisaient beaucoup les revues venant de l'étranger. Mais il y a eu ailleurs, je parle, même à cette époque-là, des changements au niveau de l'organisation de l'information en art. Tu sais, il y a eu des nouvelles revues, comme par exemple Art Presse, qui est sortie à ce moment-là, qu'on a commencé à recevoir au Québec. Quoique il y avait des chroniques de l'art vivant qui nous arrivaient avant aussi, mais en tout cas. On dirait que le phénomène des revues, là, à tirage plus
Réduit.
limité, et se spécialisant en art contemporain, on dirait que ce phénomène-là s'est vraiment déclaré au début de la décennie, au début des années 70.
Donc vous êtes arrivé quand même en 75.
Nous, pas à Chute.
Oui.
Oui. C'est probablement un phénomène qu'on peut peut-être lier beaucoup à toute la contre-culture des années 60, tu sais, l'accès à des idées qui étaient dans l'air, comme celle de l'accès à l'information, l'auto-information. Bon, je pense que Méliard, d'ailleurs, était beaucoup. L'existence de Méliard est redevable aussi à ce courant, à cette tendance-là.
Média était quelque chose de beaucoup, il était beaucoup plus ré
Oui.
limité dans son champ d'action. Par la
Oui.
suite, c'est ouvert.
Oui. Oui. Mais je reparlerai peut-être des liens entre mes armes et la chute après. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, j'étais toujours sur les écrits d'artistes et les interviews qui sont de aujourd'hui comme. Ah oui, c'est ça. Je disais qu'au début des années 70, il me semble qu'on était moins informés de façon internationale, tu sais, ou même de façon locale qu'on peut l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de trouver tous les magazines qu'on cherche, même à Montréal, tu sais, et d'avoir donc. Et ça circule beaucoup plus. Hein. J'ai l'impression que les gens en général doivent être beaucoup plus abonnés, ils doivent acheter plus de revues venant de l'étranger ou même venant du Canada anglais que c'était le cas en 70. Tu sais. Moi, en tout cas en 70, j'avais vraiment l'impression qu'on était coupé du monde. Et puis que c'était assez difficile de savoir ce qu'on pouvait avoir voulu savoir à l'époque sur ce qui se passait à l'étranger. Alors, De sorte qu'aujourd'hui, la nécessité se fait sentir à l'intérieur de Parachute de poursuivre davantage une espèce d'élaboration théorique, de pousser le côté théorique de la revue.
L'analyse théorique ou
Oui,
la revue théorique?
l'analyse théorique. Alors, mais on a développé entre-temps des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Au départ, on avait prévu les chroniques d'information, là, comme une façon de transmettre rapidement, si tu veux, des informations assez difficiles à aller chercher, si tu veux. Alors, c'est comme ça qu'on a développé la chronique des livres et revues, où on peut être informé sur les nouvelles parutions de catalogues, de livres théoriques, de livres sur l'art, tout ça, et de nouvelles revues. Et bon, la chronique de musique, qui fait un peu la même chose du côté musical. On aurait bien voulu développer des chroniques similaires pour la photo et le cinéma, mais jusqu'à maintenant, ça s'est pas prêté. C'est vraiment,
Par manque d'auteur.
oui, c'est vraiment une question de trouver le collaborateur qui est équipé pour faire ça. T'sais. Puis ça s'est adonné que ça a été faisable du côté de l'information en art visuel, disons, et puis en musique, mais jusqu'à maintenant, cinéma, vidéo, photo,
Non, mais parce que là, il y a une
ça n'a
question
pas
qui
été
se
possible.
poserait, est-ce que Parachute est une revue d'art plastique ou voudrait être une revue générale sur
Ah.
la culture ou la
Ben ça, c'est.
communication,
Si
etc.?
on poursuit dans les objectifs de départ qui correspondaient là, à des besoins, selon moi, un des objectifs, c'était d'abord de créer une revue qui serait spécialisée en art contemporain pour commencer, parce que ça n'existait pas. Ce qui fait que s'il y avait un débat sur l'art contemporain dans notre revue, il était tellement dilué qu'il ne pouvait pas avoir d'impact. Alors l'idée, c'était de se concentrer sur l'art contemporain et d'avoir une définition de l'art contemporain très large, étant donné l'époque dans laquelle on vit. Où finalement il y a une sorte d'éclatement entre disciplines. Alors la frontière, si tu veux, si on prend juste les arts visuels, la frontière aujourd'hui est très très difficile avec à définir, étant donné les manifestations comme la performance,
Performance.
les installations, tout ça. Tu sais. Alors tout de suite, il faut intégrer la musique, tout de suite, il faut intégrer la danse, tout de suite, il faut voir ce qui se fait en théâtre, tout de suite, il faut voir ce qui se fait
En
en
théâtre, j'ai
film,
jamais rien fait.
comme théâtre performance,
Ah,
disons.
ok.
Tu sais. Alors, ça nous oblige à avoir. On a un mandat de fait qui est très large, tu sais. Et qui est très difficile à remplir à notre satisfaction, à ma satisfaction en tout cas, entièrement. À cause de. Tu sais, quand tu te mets à ouvrir les frontières, à un moment donné, c'est très difficile de. Alors finalement, l'idée qui plane à l'heure actuelle, c'est d'essayer de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Tout en ayant ce mandat-là.
À ce moment-là, tu n'as pas le problème qu'il y avait peut-être vu des arts ou bien même Arts Canada, ou Arts Canada. C'est-à-dire que présentement, vous manquez de possibilités pour suivre toute l'actualité. Si on regarde le point de départ initial,
Oui.
et vous êtes fait dépasser un peu par les arts, non? Par la situation des arts, par ce qui se passe en arts. Non, oui.
Non, pas parce que passe en or, je dirais qu'on est davantage dépassé par le manque de ressources.
Manque de ressources
Au niveau.
d'écriture.
Oui. Oui. C'est davantage ça le problème. Bon, D'une part. Ensuite, si on les avait, ces ressources humaines-là, nos besoins financiers augmenteraient. Bien sûr, parce que on a pris récemment la décision de publier des numéros d'unité à 60 pages, de sorte, ce qui correspond à peu près à un très bon contenu respectant grosso modo les objectifs qu'on s'est donnés. Bon. Mais si effectivement on avait en plus une chronique, disons cinéma photo, bon, déjà il y aurait un peu un problème parce qu'il faudrait trouver les moyens de publier un peu plus de pages. T'sais. Alors, puis comme les besoins financiers de la revue sont grandissants et qu'en ce moment il y a une sorte de stagnation au niveau des ressources disponibles pour les subventions.
Et pourtant, vous allez chercher les par la suite, vous allez chercher les auteurs à peu près partout.
Oui.
Là, je vous poserai une question. Pourquoi que les gens écrivent dans par la suite?
Faudrait leur demander.
Non, mais selon toi?
Pourquoi les gens écrivent dans parachute? Parce que c'est une des rares revues qui existent au monde où on peut publier le type d'article qu'on publie. Il y en a très peu. Je pense pas. Il y a des revues comme Macula en France, mais ils publient vraiment un numéro par année encore. Il y a October. On ne peut pas comparer deux revues vraiment, mais c'est sûr qu'on peut vaguement regrouper des revues comme Macula, October, Parachute.
C'est dans cette catégorie-là que c'est du parachute, là.
Oui, mais étant dans le milieu dans lequel si on se compare à la situation new-yorkaise, on est un peu obligé de faire à la fois, de se donner à la fois le rôle d'October et le rôle non, le rôle de forum, disons, tu sais, parce que les revues n'abondent pas ici et il ne faudra pas qu'elles abondent non plus parce que la petite population qu'on est ne le requiert pas. Tu sais. On ne peut pas s'offrir le luxe d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de revues. Donc, c'est sûr que les
Vous
revues.
tirez combien au en fait?
Environ 4 000.
Parce que c'est ça présentement. Est-ce qu'il y a une politique éditoriale comme telle ou c'est plutôt une politique de. S'il y a une politique. Parce que ça pourrait être une politique éditoriale dans votre cas, je pense que ce que tu vas me répondre, c'est le fait que c'est beaucoup plus une politique d'information, n'importe laquelle, mieux vaut ça que rien. Es-tu de ce type-là?
Non, pas du tout.
C'est quoi la politique éditoriale?
Non. C'est parce que ça pourrait être une très longue réponse. C'est certainement pas justement une politique qui ne voudrait que fournir une sorte de véhicule pour l'information. Tu sais. Au contraire, c'est davantage une revue qui privilégie le commentaire et l'essai. Tu sais. Et il y a, comme je te l'ai dit, aussi cette section information, mais qui a presque derrière elle le même genre d'a priori, si tu veux, que l'on peut avoir quand on écrit un essai ou un commentaire. Comprends-tu?
Parce que
C'est-à-dire
ça, je ne suis
que.
pas certain que je le comprends.
Oui.
Je vais te dire pourquoi. C'est que souvent, dans la section information de Parachute, tu as des articles sur des expositions.
Non,
C'est-à-dire comme des
attends.
critiques d'exposition qui se ramassent dans la section information.
Non, il y a trois sections dans la revue. Hein. Il y a la section article de fond, l'essai, il y a la section commentaire et la section information.
Donc, dans la section commentaire, il est possible d'avoir. Ce qu'on pourrait appeler des critiques d'exposition ou des
Oui,
choses comme ça.
mais je vais. Ça, j'en ai pas
OK,
encore
là, je suis
parlé.
poil. OK.
Oui. Bon. Alors, c'est une revue qui privilégie, comme je le dis, le commentaire à plus ou moins grande échelle, si tu veux, et sous des formes différentes. Alors, ça peut être comme dans la première partie, sous la forme de l'essai traditionnel. Dans la deuxième partie, je vais parler de la troisième partie parce que c'est plus facile, sous la forme de courtes informations regroupées
J'ai connu.
sous des thèmes ou respectant les objectifs de la revue. C'est-à-dire, évidemment, on s'intéresse davantage à l'hybride, par exemple, aux formes d'art hybride que à la tradition picturale, la tradition sculpturale, des choses comme ça. Alors, le choix des catalogues va être déterminé par ça un peu, tu sais. Ou en tout cas devrait l'être, peut-être pas toujours. Ensuite, les ouvrages théoriques, vu que c'est une revue qui donne une certaine importance, si tu veux, à la méthode d'approche, tout ça, au théorique, ben, on va parler d'ouvrages théoriques, si tu veux, plutôt que de parler du dernier livre qui est sorti avec des belles planches couleur sur Léopelle, tu
C'est
sais,
ça.
bon, tout ça. Alors, le choix des ouvrages dont on parle dans cette section-là, se rapporte aux orientations générales de la revue, si tu veux. Alors, on ne fait pas juste de l'information, on ne cherche pas à informer sur tout. On cherche à informer sur certaines choses qui constituent une sorte de corpus, finalement, qui est presque le corpus théorique de la
Oui,
revue.
j'avais une question
Oui.
précise, parce que justement c'est la deuxième section
Oui.
du problème.
Bon.
Je dirais, pourquoi par exemple Dick Higgins a eu son article sur le Caravage publié
Oui.
en première section, puis
Oui.
pourquoi par exemple Robert Racine a eu le sien presque en section commentaire?
Ah oui, c'est parce qu'à ce moment-là, on avait introduit une série d'articles qui s'appelait Fiche musique.
Mais je parle de Robert Racine, ouais,
Oui,
c'est ça, ouais, sa pièce
Vexation.
Vexation.
Oui, c'est ça. On avait introduit une section spéciale qui s'appelait Fiche musicien d'ici. Et puis c'était rentré là-dedans.
C'était pour ça.
Oui.
Parce que moi, j'ai jamais compris comment ça s'est
Oui.
jamais allé en première section, cet article-là.
Oui. Mais c'est à cause de. C'est simplement parce que c'était dans une série sur les musiciens qui se
Il
rapprochaient de la
restait.
performance ici, tu sais. Et puis, bon, c'est rentré dans cette rubrique-là. Mais c'était pas dans l'information. Ou.
Si c'est dans les
Ah,
articles.
mais
Ce
c'était
que
dans
j'appelle,
une.
voilà, la section information, c'est la partie où il y a des plus petits caractères que dans la première, où c'est des plus gros caractères, puis
Oui.
t'as un titre, t'as toute
Oui.
l'affaire.
Oui.
Parce que l'autre, parce que
Oui.
l'autre, ça a l'air vraiment plus secondaire, d'une façon moins.
Oui.
Dans le choix de
Non,
l'éditeur, on prend ça, on
non,
met ça là
oui,
au lieu
mais
de
ça
le mettre en
n'est pas
vedette.
la question des petits caractères, c'est juste parce qu'à un moment donné, tout était en 8 points. Toute la revue était composée
Au
en huit
début, ouais.
points. Après ça, on s'est rendu compte que pour certaines personnes, c'était difficile à lire.
Pour juste ça sent mal.
Alors, on s'est dit, on peut pas tout faire en 9 points parce que à cause de ça
L'espace.
coûterait beaucoup trop cher, ça prendrait plus de pages, et comme on voulait couper les pages, ben, alors on s'est dit, on va publier une partie en 9 points et l'autre partie en 8 points. Puis évidemment, c'est plus facile de lire un court article en
Huit
typo qui
points.
est plus petit que de lire un plus long article en typo qui est plus petit, tu sais, parce qu'on se lasse plus vite, on se fatigue plus
Oui, c'est
vite.
normal.
C'est simple comme ça. Alors, c'est pas que les grands articles ils ont l'air privilégiés, bien sûr, mais ils sont pas privilégiés dans ce sens-là. Mais de toute manière, la revue pourrait être très bien aménagée autrement, avec la section information en avant, puis les essais en arrière. On y a déjà pensé, d'ailleurs. Mais de toute façon, je pense pas que c'est des questions bien prioritaires.
Et le truc aussi qui est un commentaire
Ah oui, c'est ça.
que j'ai
Donc,
bon,
il y a cette deuxième section-là qui a été instituée il y a environ 2 ans, la section commentaire. Et l'idée, c'était, étant donné qu'on réduisait le nombre de pages, Étant donné qu'on voulait continuer quand même à avoir plus de possibilités au niveau du contenu, tu sais, on s'est dit, on va. Et étant donné que il y avait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes artistes intéressants sur qui c'était peut-être difficile d'écrire un article de 20 pages, tu sais, qu'il pourrait faire dans la première partie, et qui, des artistes intéressants, mais dont l'ensemble du travail ne requérait pas un développement extensif comme le premier titre d'article, sans demander. On s'est dit une formule d'article plus court sur un artiste ou sur une exposition, disons, parce que la plupart du temps, quand il s'agit de parler d'un jeune artiste, c'est grâce à une exposition, tu sais. Alors, on s'est dit, bon, ça serait une façon de pouvoir tenir compte de cette activité-là, si tu veux. Ça serait aussi une façon de pouvoir suivre les artistes dans leur développement, étant donné qu'on ne peut pas consacrer un article majeur à un même artiste chaque 2 ans, si tu veux. Alors, c'était une façon
Parce que jusqu'ici, je veux dire, c'est que cette deuxième section-là me semble un peu fourre-tout. Parce que c'est pas, on l'a pas automatiquement dans la revue. Puis en même temps, des fois tu l'as, des fois tu l'as pas, on ne sait jamais. Pourquoi? Ça a l'air beau.
Quoi? Elle est
Cet aspect,
constante.
oui, mais elle est inégale. Elle n'a pas le sérieux de la première partie.
Oui,
C'est-à-dire au
non.
niveau, c'est très irrégulier, très.
Oui, les styles d'écriture sont très différents.
Tu sais, puis de même,
Oui.
là, je veux dire une chose, ça me fait penser des fois quasiment au bouche-trou de Vie des Arts, dans le fond, ou même d'Arts-Canada, quand ils faisaient des trucs sur Montréal, Toronto, Vancouver, Longueuil, là, ça fait penser un peu à ça. Et dans ce sens-là, je trouve, moi je trouve, c'est un des points faibles de la revue, puis j'ai l'impression que celui qui se ramasse là, l'article est écrit du même ton que la première partie, il se ramasse là. Parce que son sujet est peut-être mineur.
Non, d'abord, on dit
Puis
toujours
d'ailleurs, tu remarqueras une chose, je pense que tu l'as remarqué, c'est qu'il y a très peu de cas où tu vas avoir le fait que. Je sais pas ce que je parle. Il y a très peu de cas où tu vas avoir le fait que ce soit un artiste de, disons, de carrière internationale qui va se ramasser en commentaire.
C'est parce
Jamais.
qu'en général, on traite surtout des expos canadiennes dans cette, ou
C'est
des
ça.
artistes canadiens dans
Ou
cette partie.
québécois, ou quelque chose
Ouais.
comme ça.
Parce que d'ailleurs, ben, c'est une chose.
Mais je sais pas si c'est une partie du débat, parce que là, on est en train de parler
Ouais,
d'autre
c'est
chose tout
ça.
à fait.
Non, mais
Arrêtons
sa
là-dessus.
chose, sa, chose certaine, c'est que cette section-là a été conçue aussi pour davantage parler de ce qui se passe ici. Tu sais?
Et la différence entre
Oui.
Parachute et Chantal Pompliant.
Ah. Ben, Parachute, comme je disais tout à l'heure, je pense aujourd'hui est devenu une institution dans le milieu
Est-ce
qui
que
remplit
Chantal
sa
Pompliant est
fonction
devenue une
et tout.
institution?
Non. suis une personne, je suis un individu qui a pour fonction, si tu veux, de diriger la revue, mais je suis aussi une critique. Je dirais comme quelqu'un est médecin et en même temps il dirige un hôpital, si tu veux. Alors, en tant que médecin, il peut avoir ses spécialités, puis en tant que directeur de l'hôpital, il peut avoir certaines
Mais tout le monde sait qu'en
responsabilités.
pratique, celui qui dirige l'hôpital n'est plus médecin.
Bon. Oui, ben ça c'est très bien vu. Parce que les responsabilités administratives, à un moment donné, bouffent tout le temps. Tout le temps disponible. C'est Parachute, heureusement, n'est pas une institution
Trop
trop
lourd.
importante. Donc, elle me permet, si tu veux, de partager mon temps, si tu veux, entre l'administration et une activité personnelle de critique.
C'est quoi ton activité personnelle de critique? Quels sont tes champs d'intérêt?
Ben, mes champs d'intérêt, c'est. Comment je t'explique? C'est ce que j'appelle performance, mais ce n'est pas la performance en tant que discipline comme la sculpture ou la sculpture ou la peinture ou je sais pas, la vidéo. Je vois au cœur de l'art contemporain une attitude, un mode unificateur, si tu veux, que j'appelle performance. C'est peut-être un terme. Temporaire que j'emploie, mais chose certaine, c'est un peu ce qui guide mes choix ou mes intérêts, si tu veux, et ce qui guide aussi mes interrogations théoriques.
Autrement dit, pour toi, tu as éliminé ce qu'on pourrait appeler toute œuvre qui ne dépend que d'un seul médium ou qui correspondrait à des catégories de médiums classiques. Une œuvre de Molinari, par exemple, est une œuvre quasiment secondaire.
C'est pas une œuvre qui se situe dans le sens, elle est secondaire dans le sens très subjectif, qu'elle ne se situe pas au cœur de mes préoccupations actuelles. Mais ça n'exclut. Mon intérêt pour cette question de performance n'exclut pas obligatoirement la peinture ou la sculpture. Tu sais, mais j'essaie de voir ce qui peut être performatif là-dedans. Ce sont des travaux qui sont performatifs en peinture à l'heure actuelle qui me semblent importants. Comme par exemple Marc, le travail de Mandeville.
Puisqu'elle
Donc, on a sous la main. Il m'intéresse parce que je trouve que c'est un travail qui demeure dans la tradition culturelle, qui est dans la tradition culturelle, mais qui est en même temps performatif. Et je me dis, c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est pertinent pour aujourd'hui.
Donc, ce n'est pas l'observation d'un tableau, c'est plutôt l'observation d'une démarche qui t'intéresse.
Oui. Oui. Et je trouve que, toujours pour revenir à ce même exemple, le travail de Marthe est performatif parce que il s'intéresse, c'est toujours un travail de mise en situation, tu sais, de matériaux, de lieux, de temps, si c'est une galerie, ça va être différent de si c'est un musée, ou bien si ça peut être un espace industriel, mais là, ça va être encore différent. Si c'est un livre, ça va être encore différent. Tu sais, il y a une sorte d'adaptabilité aux circonstances dans lesquelles elle est placée en tant qu'artiste qui fait que son travail est très performatif.
C'est parfois performatif, comme tu
Oui.
dis. Tu entends donc une œuvre qui est au-delà, qui dépasse l'objet.
Oui.
Complètement.
Oui, oui. Quoi qu'il peut incorporer des objets.
Incorporant l'objet, mais le dépassant dans
Mais,
sa finalité, dans sa
c'est-à-dire que je ne
présentation.
con considère pas que l'art aujourd'hui puisse être conçu comme étant quelque chose qui correspond à une définition ou à une essence. C'est beaucoup plus pour moi quelque chose qui se définit par la rencontre de plusieurs facteurs. Et c'est aussi quelque chose qui se définit beaucoup, et ça je pense que c'est propre au 20e siècle, beaucoup par rapport au spectateur. Et il y a des travaux en ce moment qui m'intéressent comme ceux de l'école de Constance, l'Institut de la réception, qui justement essaient de définir quelle est cette position-là du spectateur dans la modernité. Alors, c'est une question qui...
C'est quoi l'école de Constance? C'est Adorno?
Non, c'est l'école de Francfort. C'est des gens comme Hans Robert Jos, par exemple.
Qu'est-ce qu'il a fait, lui?
Pour une esthétique de réception. Alors... Puis, bon, évidemment, c'est des questions qui ont été abordées dans le cadre de l'école, dans le cadre de l'école de Francfort aussi, avec Adorno et Adorno. Alors, moi, ce serait, si tu veux, une façon très rapide, là, de résumer mes préoccupations. Mais, et je pense, effectivement, que c'est aussi que ces préoccupations-là se reflètent dans la revue, tu sais.
Évidemment, apparemment, oui. C'est ça. Comment c'est ça qu'il y a eu une scission entre toi et France? France Morin a quitté le parachute. C'est-tu...
L'état de l'art québécois à l'heure actuelle, ou bien de l'art au Québec à l'heure actuelle.
L'art au Québec. Et aussi, j'ajouterais peut-être des influences de la musique aussi. Est-ce que tu aimes ce que tu vois pour commencer?
Je ne vois pas beaucoup d'art qui vont offrirait une image de nouveauté, serait étonnant. La situation en ce moment est plutôt calme, je dirais. Je regrette que, et c'est peut-être, c'en est d'ailleurs peut-être la raison, il n'y a peut-être pas suffisamment justement d'événements qui pourrait aider à stimuler la création. Bon, c'est un problème, c'est une sorte de cercle vicieux, si tu veux. Parce que moi, je crois beaucoup que non seulement la diffusion d'informations, mais la réflexion qu'on peut provoquer après sur cette information-là, soit par des mécanismes différents, disons, comme la revue, par exemple, ou bien des expositions, ou bien des séries de festivals de films, festivals de performances, festivals de danse, etc. Je crois que tout ça peut avoir un effet sur la création. Bon, un effet qui doit se faire sentir à plus ou moins long terme. Deux choses d'une. Jusqu'à maintenant, dans les années 70, il y a eu quand même quelques événements qui ont fait du bruit. Bon, disons, on parle du tout début des années 70, médias et des activités autour à l'époque. Ensuite, bon, des choses comme la création de la revue de Parachute et son effet par la suite, la chute. Des choses comme Québec 75, des choses comme performance. L'an dernier, 03-23-03. Bon, on peut dire que ce sont à peu près des événements majeurs. Il y a des événements périphériques, il y a ce qui s'est passé dans les galeries. Il y a évidemment aussi les galeries parallèles, la création des galeries parallèles et leur programmation. Bon, ça, c'est plus ou moins égal sur les années. Mais ce sont toutes des choses, je pense, qui ont influencé le milieu. Plus le fait que les individus eux-mêmes se déplacent peut-être un peu plus qu'ils le faisaient autrefois. Tu sais, il y a plus de va-et-vient entre l'Europe et ici, plus de va-et-vient vers New York. Il y a peut-être plus de gens de l'étranger aussi qui viennent. Ouais. Qui viennent ici, qui sont de passage ici, qui ont une influence plus ou moins grande selon les cas. Mais tout ça, c'est bon, dans les écoles, je trouve pas que jusqu'à maintenant les écoles, surtout l'enseignement universitaire, peut avoir une influence très grande sur la situation de l'art. Ça semble être les effets de la création de nouveaux départements d'art plastique dans les universités sont très faibles jusqu'à maintenant. C'est presque impossible de mettre le doigt sur des artistes très intéressants qui sont sortis de ces départements-là. Probablement dû au fait qui traînent, ils ont récupéré des éléments, des enseignements, comme de l'enseignement pour les beaux-arts, qui fait que peut-être que dans 20 ans, on va pouvoir sentir un véritable renouvellement, mais pour l'instant.
Mais l'état de l'art même, ce qui est intéressant.
Bon, l'art, je dirais que l'art lui-même, ne peut pas, dans ces circonstances-là, être très intéressant. Parce qu'il n'est pas suffisamment informé. On sent qu'il n'y a pas vraiment un débat critique qui court dans l'art qui se produit au Québec à l'heure actuelle. C'est beaucoup un art académique, en ce sens qu'on sent vraiment qu'il nourrit là, de l'intérieur des universités, nourries bêtement par des salaires d'universités, et qu'ils répondent à une dynamique, une véritable interrogation sur l'art. C'est vraiment une production confortable, qui est très très enfermée dans des chaînes établies. Il n'y a pas beaucoup, on ne sent pas qu'il y a un défi dans l'air en ce moment, on ne sent pas un souffle qui anime l'art à l'heure actuelle. Et je pense que c'est beaucoup dû à un manque de confrontation qui pourrait provoquer la réflexion critique que je souhaite. Je pense que si de façon continue on avait des événements comme 03-23, Québec 75, performance. Si finalement les musées remplissaient le rôle qu'ils doivent remplir, je pense que déjà on aurait des longueurs d'avance sur la situation actuelle. Parce qu'il faudrait que ce soit chaque année qu'il y ait deux, trois fois par année qu'il y a des. Bon, je dis ça. Et d'autre part, d'une certaine façon, on sent en même temps qu'on est assommé par toute l'information qu'on doit assimiler. Mais je pense qu'on n'a pas appris, justement, c'est une question de critères. On n'a pas développé des critères qui nous permettent de choisir dans cette masse d'informations-là. Alors on fait un peu n'importe quoi. On fait un peu n'importe quoi dans les musées, on fait un peu n'importe quoi dans les galeries, dans les universités, on fait un peu n'importe quoi comme enseignement. C'est ce qui fait que ça crée un climat assez médiocre. Tu sais? Et qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de choc qui sont introduits dans ce milieu pour l'obliger à resserrer finalement ses paramètres. Alors.
Pour une main pessimiste.
Non, parce que je pense, comme je te dis, à un moment donné, dans les universités, on va.
Mais tout est dans l'avenir, est-ce qui peut se
Oui,
passer? Il ne se
ah
passe
oui.
rien présentement.
Ben, il se passe toujours des choses, bien sûr. Ce qui permet d'espérer que dans l'avenir, les choses vont aller s'améliorer, parce qu'il y a quand même, on est quand même drôlement plus avancé qu'on l'était il y a 10 ans, je pense. Tu sais. Drôlement plus. Au moins,
Comment?
ben, au moins, bon, on a, quoi qu'on dise, par exemple, du musée d'art contemporain, bon, au moins, c'est acquis qu'il y a un musée d'art contemporain. Ça suffit pas. C'est acquis qu'un musée doit disposer d'un personnel assez important dont il dispose. Il dispose aussi d'un budget assez important. Bon, ce sont tous des acquis qui, à court terme, font pas peut-être l'effet qu'ils pourraient faire, étant donné qu'il y a véritablement, pour l'instant, une sorte de. Justement, ce qui manque maintenant, c'est presque une espèce de pensée critique sur laquelle s'aligner. Tu sais. La même chose au Musée des Beaux-Arts. Maintenant, je pense que c'est acquis un peu, même dans les têtes, même chez ceux qui sont les plus récalcitrants, prime abord, c'est acquis que le Musée des Beaux-Arts a un rôle à jouer dans le domaine de l'art contemporain. Tu sais. Alors, bon, dans les universités, ça a beaucoup changé. À l'Université de Montréal, il y a 10 ans, on n'entendait pas parler d'art contemporain, alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait différent.
Intégré,
Tout ça va porter ses fruits à long terme. À court terme, non, c'est sûr que la situation n'est pas drôle.
y a-t-il des artistes que tu respectes?
Oui, il y a des artistes que j'aime
Mais
bien.
qui demeurent des individus, c'est ça.
Oui, puis de toute façon, qui travaillent de façon très, très individualiste. Et je pense que il y a suffisamment de forces aussi qui sont en train de se produire qui vont provoquer une réflexion aussi chez des plus jeunes éventuellement et qui on peut espérer que ça va dans ce métier.
Mais penses-tu que le milieu des producteurs est complètement coupé du milieu des receveurs aussi, non?
Il y a un problème, et moi je l'attribue beaucoup au musée, étant donné que je conçois le musée comme étant le principal lieu. Un musée, si tu veux, dans l'organigramme que je ferais d'une communauté artistique, pour moi ça joue un rôle vraiment essentiel. Parce que en art, il faut pouvoir voir avant tout. T'sais. Donc, je considère que si on parle juste d'art contemporain, on est considérablement handicapé par le fait que nos musées n'ont pas suivi l'art contemporain. Évidemment, je parle à une échelle internationale, parce que de toute manière, qu'on veuille ou non, on est dedans. T'sais, on ne peut plus penser l'art aujourd'hui sans le penser d'une façon trans. Une façon globale, tu sais.
Donc, il y a des
Alors, parce
délais.
qu'on est informé, on est informé par le biais des médias, si tu veux, par des revues, il y a plus de revues que jamais. Alors, on doit tenir. Donc, comme je le disais avant dans l'interview, puisque de toute façon on est dans ce bain-là, faut en prendre conscience et faut articuler notre position face à ça. Tu sais? Faut vraiment développer une pensée critique face à ça, savoir pour nous qu'est-ce qui est important dans l'heure actuelle, comment l'heure actuelle s'articule, quels sont les débats qu'on peut trouver pertinents, qu'est-ce qu'on peut y contribuer, etc. Mais je pense que les musées vraiment nous ont handicapés terriblement en suivant pas de près, si tu veux, en ne jouant même pas un rôle d'information, sans parler d'un rôle plus sérieux, vraiment, là, de réflexion. Tu sais? Parce qu'il y a un musée doit informer, mais il doit aussi offrir des perspectives critiques sur ce qu'il présente. Par exemple, même si je trouve que le néo-expressionnisme qui a cours à l'heure actuelle est une tendance tout à fait réactionnaire de l'art contemporain, je trouve quand même qu'un des musées ici devrait nous présenter une exposition de ce type d'art-là pour nous permettre de réfléchir concrètement et pas par le biais d'images ou de textes qui ont été écrits ailleurs. Tu sais? Je pense que c'est bien, bien important. Puis donc, c'est important aussi pour des musées de faire la même chose avec l'art qui se fait ici, tu sais, de vraiment être à l'affût des nouveaux développements, de nous les présenter et de susciter un débat critique autour, tu sais. Et c'est important aussi pour nous d'être confrontés à d'autres œuvres. C'est important qu'une œuvre soit confrontée à une autre pour pouvoir l'analyser, pour avoir quelque chose à comparer, si tu veux. C'est comme ça qu'on peut. C'est une méthode d'analyse très, très de base, si tu veux. Tu sais. Alors, c'est important que l'œuvre de deux artistes puisse être comparée. De même que c'est important que l'œuvre de deux artistes qui viennent de pays différents puisse être comparée pour trouver l'essentiel.
Vous avez me suggérer une idée, c'est-à-dire le fait que si en 54 il suffisait de lire le magazine, en 82 il est peut-être important de voir les œuvres
Oui.
que les magazines dans
Oui.
le temps
Oui.
montraient, dont les magazines là-dedans ont des images.
Ah, c'est très, très important de voir. Tu sais.
Mais penses-tu que ça va se faire?
Oui, je pense que ça va se faire.
Ouh.
Hein? Ben, je
Ouh.
pense que ça va se faire dans nos musées. Ça peut prendre du temps, mais je pense que ça va se faire. Mais on est parti de l'idée publique tantôt. Tu disais que c'est important d'avoir des regardeurs. C'est sûr, c'est essentiel d'avoir des regardeurs. Tu sais? Moi, je crois que si les musées, justement, nous avaient informés correctement, dosé leur programmation de l'art international, l'art canadien et l'art
D'accord.
québécois, je pense que ça serait probablement beaucoup plus facile de. En ce moment, il y en aurait un public beaucoup plus important pour l'art que ce qu'il y a. Mais ce qu'on présente comme programmation, ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant, depuis, disons, 20 ans au Québec comme programmation dans les musées, c'est tellement inégal, incohérent, qu'il n'y a personne qui peut s'y retrouver.
Mais il n'y a pas
Tu
une chose.
sais?
On n'a pas présenté tout le monde
Comment tout le monde?
dans les milieux ou presque. Je sais qu'il y a une certaine crédibilité n'ont pas été exposée.
Ou parmi
Dans les
les
musées.
artistes locaux, tu veux dire.
Oui.
Oui, mais le rôle international n'a pas été joué du
C'est la faiblesse du rôle international.
tout. Oui, beaucoup. Puis aussi, je pense que les artistes locaux sont pas suffisamment supportés.
quelle façon?
Ben, c'est difficile peut-être de. C'est une intuition que j'ai, mais j'ai pas l'impression que justement on les a aidés on a stimulé leur réflexion sur l'art, si tu veux.
Là, tu parles des musées.
Oui.
Parce que, au niveau support, le temps qu'on a eu.
Oui. Le support
Autrement dit, il faudrait
financier.
refaire des musées. Là.
Hein?
Pour toi,
Ben,
pour
il faudrait
refaire.
soigner leur
Ben,
programmation.
refaire les musées,
Oui.
presque.
Oui.
Refaire toute l'histoire.
Oui. Soigner beaucoup leur programmation. Soigner leur publication. Aussi, ça va de pair. Et puis, vraiment, en faire plus que ce qui est fait, tu sais, c'est vraiment. Mais, tu sais, je veux dire, c'est ridicule quand on y pense parce que le musée d'art contemporain, par exemple, montre peut-être 3 expositions mensuellement, tu sais. C'est énorme! Qu'est-ce qu'ils exposent? Tu sais, j'ai de la difficulté à me rappeler de 2 bonnes expositions qui ont eu lieu dans ce musée-là l'an dernier. Donc, c'est un problème de critères. Tu sais? Un problème d'orientation, c'est un problème de critères. Si tu veux, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'orientation dans les musées localement. Alors, c'est bien difficile, comme je te dis, pour même un public. C'est difficile pour un public plus large de suivre, parce qu'ils n'ont absolument pas de cadre de référence. Tu sais? Et c'est aussi difficile pour un public plus spécialisé, parce qu'ils ont des gros trous dans leur culture. C'est vrai! Puis là, c'est vraiment une affaire
Mais
de c'est une affaire
le public producteur.
Oui.
Mais écoute.
Puis le manque de public fait aussi que y a un manque de critique, si tu veux. Il y a un manque de feedback.
Est-ce qu'il y a une critique ici?
Est-ce qu'il y a une critique?
Non.
Ben oui, il y en a une. Bien sûr, il y en
Est-ce
a
qu'elle est
une.
efficace?
Elle n'est pas toujours suffisamment informée, je dirais. De sorte qu'elle se laisse impressionner par des choses qui sont banales et puis qu'elle s'enthousiasme pas sur peut-être les choses les plus importantes. Tu sais?
Mais regarde, tu t'as fondé Parachute en 75, on est
Oui.
en 82. Est-ce que la situation a changé de quelque façon que ce soit?
Oui, ben ça, il me semble que j'ai déjà répondu à cette question-là. Oui, je pense que la situation, elle a
Est-ce
changé.
qu'elle a évolué pour le mieux?
Oui. Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire.
Que c'était bien au début des années 70 et que ça
Non.
marche aujourd'hui.
Ben oui, il y a beaucoup de gens qui vont dire que
Moi,
présentement,
je
regarde
crois
toute la
pas.
tonne de galeries qui s'est ouverte. Regarde
Oui.
les orientations de ces galeries-là.
Oui.
C'est vers le nationalisme le plus étroit, ça.
Oui.
Donc, c'est pas positif.
Bon, on est à la fin de cette époque nationaliste, j'ai l'impression. On est à la fin d'une certaine pensée nationaliste, j'ai l'impression. De la pensée nationaliste, genre, regardons nous nombrer, nous sommes heureux dans les autos.
Il n'y a pas su y a eu un art québécois qui s'est créé, parce que lui, dans le temps,
Oui.
avant ton temps,
Oui.
t'étais quand même eu plasticien, t'es quand même eu automatiste, t'es quand même eu ci, t'es quand même eu
Oui.
ça.
Moi, je crois pas qu'il y ait un art québécois plus qu'un art français, plus qu'un art américain.
crois que dollars. Oui, c'est tout.
Des individus.
Ben, non, pas des individus tellement qu'une qu'une pensée, si tu veux.
Parce que toi, l'ouverture, c'est l'ouverture de l'art, c'est l'ouverture à ailleurs. L'observation de ce qui se passe ailleurs.
L'ouverture à soi aussi. C'est dialectique, c'est dialogique. Tu sais, c'est vraiment, comme je disais, pour moi, la base de ma pensée, c'est les vases communicants, tu sais, ça fait de place. Et puis, d'un autre côté, il y a un apport bilatéral, si tu veux. C'est plus même que bilatéral, c'est pas juste une question de confronter le local avec l'international. Il y a un tas de facteurs qui ont en même temps.
Mais irais-tu jusqu'à dire qu'une œuvre ne peut pas être valable que dans la mesure où celui qui la produit n'est pas un individu qui se promène, autrement dit l'artiste, presque un journaliste qui n'écrit pas, mais quand même qui enregistre des tonnes d'informations un peu partout, puis qui à partir de ça seulement peut exister.
Accumuler de l'information, on le fait qu'on le veuille ou non.
Non, mais je veux dire, mais c'est seulement c'est, plus tu auras d'informations, plus l'œuvre risque d'être bonne.
Oui, mais c'est pas juste seulement une question d'information. On peut être super informé, mais si on n'est pas productif, si on n'apporte pas non plus une réflexion sur l'information qu'on s'il n'y a pas une pensée critique derrière, ça ne donne rien.
Quelles sont les œuvres que tu respectes?
Les œuvres...
Que tu respectes, toi?
De quelle sorte d'exemple?
N'importe quel, international, n'importe où.
Oh, tu sais... Je ne sais pas si c'est possible de... Tu veux que je cite des noms?
Ou oui, c'est un nom.
Je ne sais pas. Personnellement, moi, j'ai été très impressionnée par... tout l'art minimal, tout l'art des années 60, toutes les recherches, tout le climat qu'il pourrait y avoir dans l'art.
Plus le climat, peut-être les œuvres.
Non. Les œuvres sont les résultantes de ce climat-là. Mais je parle pas. Je parle d'une certaine. Quand je parle de climat, je parle plus d'une certaine forme de questionnement. Que autre chose, c'est une sorte de dynamique que tu peux diminuer. Mais bon, des œuvres comme celle de Dan Graham, Robert Morris, Carl André, Travail d'Ivan Lane, Trisha Brown, Philippe Glass,
Puis au niveau de la critique, qui t'impressionne?
Au niveau de la critique? Non, mais les six sont nombreuses.
La critique, là.
Bon, chez les Américains, je sais pas, quelqu'un comme contemporain, Roseline Cross, Steinberg, Lyotard en France, La Couleur d'art. Mais c'est pas vraiment des critiques d'art comme les Américains. C'est différent. Ça dépend, tu sais. Et puis souvent, c'est pas tout le travail de quelqu'un qui m'intéresse, ça peut être juste un texte. Ça dépend aussi. Mes intérêts varient selon le travail que moi je suis en train de faire.
Mm-hmm. Je reviens à la question qui t'a envoyée dans la lettre. L'approche se base sur l'œuvre de quelques artistes à travers des critiques, rencontrer ceux-ci à travers leurs œuvres de réflexion, chercher à découvrir comment l'art d'ici s'est transformé, l'art de chaque producteur a mûri, est arrivé à dire les interrogations 68 et les réalisations d'aujourd'hui. As-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Que ce soit que la question est mauvaise ou quoi? Ou n'importe quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'état actuel dans lequel on vit pour l'art?
Je pense que c'est. Les temps sont difficiles dans ce sens que. Dans les années 60, on a ouvert, on fait éclater beaucoup de questions, tu sais, comme par exemple la question du formalisme. Bon. On semblait, à cause de ça, tu sais, ramener tout à un même niveau, c'est-à-dire donner de l'importance à tout. Et je pense pas que c'est pas possible de vivre dans une situation où justement tout est possible. Je pense que l'interrogation principale à l'heure actuelle, c'est d'essayer de se débrouiller dans la mêlée, quoi, de trouver peut-être sans s'enfermer dans un système clos. D'essayer de découvrir des approches justement larges pour ouvrir les possibilités au lieu de les fermer. Mais je trouve que c'est très difficile, faut être très aux aguets, si tu veux, des nouvelles démarches parce qu'elles peuvent souvent être réactionnaires et dangereuses.
Il y a une chose, par exemple, j'ai remarqué que dans toute l'interview, de ne pas donner un seul nom d'artiste. C'est un seul nom d'artiste qui m'a fait. Pourquoi?
Tu peux t'en donner.
Non, je ne veux pas avoir de nécessairement des noms. Pourquoi tu n'en as pas donné?
Parce que tu m'as demandé quels artistes avaient été importants pour moi. Non, moi, c'est vraiment dans l'art américain minimum que. J'ai compris qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que ça pourrait être là. C'est pas en étant confronté à des œuvres, tu sais, macabres. Parce que il faut se replacer dans le contexte de l'époque aussi, au début des années 70, tu sais, surtout à l'UQAM, l'art québécois. C'était censé être quelque chose qui soit le fun, un art de participation, un art. Tu comprends?
Toutes les choses que tu rejettes.
Ben. Oui, parce que je trouve que de penser l'art comme étant juste quelque chose qui est le fun, ça me satisfait pas.
Parce qu'il y avait aussi une remarque, il y avait un moment où tu disais, tu voulais parler de la relation média-parachute.
Oui. Oui, et puis, oui, il y en a une. Ça, pour dire qu'il y a une relation très étroite, je pense, entre l'existence de Médiar et la naissance de Parachute.
Est-ce que Parachute était contre Médiar, en fait?
Contre, non. D'abord, ça se passait 5 ans après.
2 ans.
Alors, 2 ans après. Oui, mais en tout cas, moi, j'étais surtout au tout début de Médiar. Quant à mon expérience à moi, Parachute n'était pas une réaction contre Médiar. Tu sais, Médiar était devenu pour moi à ce moment-là un endroit où j'avais appris, si tu veux, comment faire une revue, tout ça. Mais probablement que mon intérêt pour Parachute a été s'est précisé grâce à l'expérience de Médiar. Les intérêts que je désirais poursuivre en Parachute se sont précisées grâce à Média, dans le sens que je trouvais qu'à Média, la réflexion critique n'allait pas suffisamment loin. Et c'est peut-être pas quelque chose dont je me suis rendu compte sur le coup, autant comme après. Tu sais? Alors, c'est, dans ce sens-là, ça a été formateur pour moi. Tu sais? Voilà. Puis aussi, c'était la première revue à s'intéresser uniquement à l'art contemporain. Tu sais, dans laquelle j'étais impliquée.
Uh-huh. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter tout ça?
Oui, ça fait trop personnel. Alors,
on
va se faire. Oui. Parce qu'en fait...